Je t'aimerai toujours. Il la serra sur son cœur. Il répondit : Je ne désire que ton bien. J'achève mon œuvre. Et, dans le dernier baiser, le baiser déchirant qu'ils échangèrent, elle soupira à voix très basse : Ah ! Si l'enfant était venu ! Plus bas encore, en un sanglot, elle crut l'entendre bégayer des mots indistincts. Oui, l'œuvre rêvée, la seule vraie et bonne, l'œuvre que je n'ai pu faire. Pardonne-moi, tâche d'être heureuse. La vieille Madame Rougon était à la gare, très gaie, très vive, malgré ses 80 ans. Elle triomphait. Elle croyait tenir son fils Pascal à sa merci. Quand elle les vit hébétés l'un et l'autre, elle se chargea de tout, prit le billet, fit enregistrer les bagages, installa la voyageuse dans un compartiment de dame seule. Puis elle parla longuement de Maxime, donna des instructions, exigea d'être tenue au courant. Mais le train ne partait pas, et il s'écoula encore 5 atroces minutes, pendant lesquelles ils restèrent face à face, en ne se disant plus rien. Enfin, tout sombra. Il y eut des embrassades, un grand bruit de roues, des mouchoirs qui s'agitaient. Brusquement, Pascal s'aperçut qu'il était seul sur le quai, pendant que, là-bas, le train avait disparu à un coude de la ligne. Alors, il n'écouta pas sa mère. Il prit sa course, un galop furieux de jeune homme, monta la pente, enjamba les gradins de pierre sèche, se trouva en 3 minutes sur la terrasse de la Souleyade. Le mistral y faisait rage, une rafale géante qui pliait les cyprès centenaires comme des pailles. Dans le ciel décoloré, le soleil paraissait là de tout ce vent, dont la violence depuis 6 jours lui passait sur la face. Et, pareil aux arbres échevelés, Pascal tenait bon, avec ses vêtements qui avaient des claquements de drapeaux, avec sa barbe et ses cheveux emportés, fouettés de tempête. La laine coupée, les deux mains sur son cœur pour en contenir les battements. Il regardait au loin fuir le train à travers la plaine rase, un train tout petit que le mistral semblait balayer, ainsi qu'un rameau de feuilles sèches. Chapitre 12. Dès le lendemain, Pascal s'enferma au fond de la grande maison vide. Il n'en sortit plus. Cessa complètement les rares visites de médecins qu'il faisait encore. Vécut là, portes et fenêtres closes, dans une solitude et un silence absolu. Et l'ordre formel était donné à Martine. Elle ne devait laisser entrer personne, sous aucun prétexte. « Mais, monsieur, votre mère, Madame Félicité !»« Ma mère, moins encore que les autres. J'ai mes raisons. Vous lui direz que je travaille, que j'ai besoin de me recueillir et que je la prie de m'excuser. » Coup sur coup, à 3 reprises, la vieille Madame Rougon se présenta. Elle tempêtait au rez-de-chaussée. Il l'entendait qui élevait la voix, s'irritant, voulant forcer la consigne. Puis, le bruit s'apaisait, il n'y avait plus qu'un chuchotement de plaintes et de complots entre elle et la servante. Et pas une fois il ne céda, ne se pencha en haut de la rampe pour lui crier de monter. Un jour, Martine se hasarda à dire « C'est bien dur tout de même, monsieur, de refuser la porte à sa mère, d'autant plus que Madame Félicité vient dans de bons sentiments, car elle sait la grande gêne de monsieur, et elle n'insiste que pour lui offrir ses services. » Exaspéré, il cria, « De l'argent ? Je n'en veux pas, entendez-vous ? Je travaillerai, je gagnerai bien ma vie, que diable !» Cependant, cette question de l'argent devenait pressante. Il s'entêtait à ne pas prendre un sou des 5 000 francs enfermés dans le secrétaire. Maintenant qu'il était seul, il avait une complète insouciance de la vie matérielle. il se serait contenté de pain et d'eau. Et chaque fois que la servante lui demandait de quoi acheter du vin, de la viande, quelques douceurs, il haussait les épaules. À quoi bon? Il restait une croûte de la veille, n'était-ce pas suffisant? Mais elle, dans sa tendresse pour ce maître qu'elle sentait souffrir, se désolait de cette avarice plus rude que la sienne, de ce dénuement de pauvre homme où il s'abandonnait avec la maison entière. On vivait mieux chez les ouvriers du faubourg. Aussi, pendant toute une journée, parut-elle en proie à un terrible combat intérieur. Son amour de chien docile luttait contre sa passion de l'argent amassé sou à sou, caché quelque part, faisant des petits, comme elle disait. Elle aurait mieux aimé donner de sa chair. Tant que son maître n'avait pas souffert seul, l'idée ne lui était pas même venue de toucher à son trésor. Et ce fut un héroïsme extraordinaire, le matin, où, poussée à bout, voyant sa cuisine froide et le buffet vide, elle disparut pendant une heure, puis rentra avec des provisions et la monnaie d'un billet de 100 francs. Justement, Pascal, qui descendait, s'étonna, lui demanda d'où venait cet argent, déjà hors de lui et prêt à jeter tout à la rue en croyant qu'elle était allée chez sa mère. « mais non, monsieur, bégayait-elle, ce n'est pas cela du tout !» Et elle finit par dire le mensonge qu'elle avait préparé. « Imaginez-vous que les comptes s'arrangent chez monsieur Grand-Guillot, ou du moins ça m'en a tout l'air. J'ai eu l'idée ce matin d'aller voir, et on m'a dit qu'il vous reviendrait sûrement quelque chose, que je pouvais prendre 100 francs. Oui, on s'est même contenté d'un reçu de moi. Vous régulariserez ça plus tard. » Pascal sembla à peine surpris. Elle espérait bien qu'il ne sortirait pas pour vérifier le fait. Pourtant, elle fut soulagée de voir avec quelle facilité insouciante il acceptait son histoire. « Ah, tant mieux !» s'écria-t-il. « Je disais bien qu'il ne faut jamais désespérer. Cela va me donner le temps d'organiser mes affaires. » Ses affaires, c'était la vente de la souleyade, à laquelle il avait songé confusément. Mais quelle peine affreuse, quitter cette maison où Clotilde avait grandi, où il avait vécu près de 18 ans avec elle. Il s'était donné 2 ou 3 semaines pour y réfléchir. Quand il eut cet espoir qu'il rattraperait un peu de son argent,